RCF.
Je pense donc j'agis. Spécial présidentiel. Tous ensemble, construisons la France de demain. Une émission présentée par Madeleine Vatel et Melchior Gormand.
Et on est très heureux de vous proposer cette programmation spéciale en vue de l'élection présidentielle de 2022. On ouvre la seconde partie tout de suite de « Je pense donc j'agis ». Alors, on vous le disait tout à l'heure, à moins de 3 mois du premier tour, on entame une série d'émissions spéciales pour décrypter des thèmes vraiment essentiels à la campagne avec des acteurs de terrain. On les entend afin également d'aider chaque citoyen, chacun d'entre nous à discerner, à réfléchir et à agir au moment du vote. Alors, après avoir parlé des soignants dans un premier temps, nous allons plutôt nous tourner vers les soignés en abordant la question des déserts médicaux. Soyez toujours les bienvenus avec vos témoignages et réactions. Est-ce qu'il y a proche de chez vous, par exemple, une maison médicale où vous pouvez vous faire soigner? Quelle est votre réalité si vous habitez en zone rurale? Est-ce que vous arrivez à trouver un médecin? Quel regard vous portez sur cette désertification? Et puis, vu qu'on est quand même dans cette campagne présidentielle, que devrait faire le prochain président? Quelles propositions? Et dites-nous également si vous avez été victime collatérale de la situation dans les hôpitaux. Pour participer, vous laissez vos messages dès maintenant par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Dans le groupe Facebook « Je pense donc j'agis », vous êtes déjà très nombreux à avoir réagi. Et puis, à l'antenne, vous venez au 04 72 38 20 23.
Jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis sur RCF.
Et toujours avec vous, chère Madeleine Vatel, pour cette programmation spéciale en mode présidentiel. Et nous parlons santé ce matin.
Oui, on l'entendait justement il y a quelques minutes, la question de l'hôpital, elle n'est pas déconnectée de celle des médecins généralistes. Alors dans cette deuxième partie, de celle des cabinets, je veux dire des cabinets de ville, et dans cette deuxième partie, nous allons faire un point sur l'accès aux soins. Alors nous sommes à 90 jours, plus précisément même 89 de l'élection présidentielle, et ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de comprendre ce qui peut être engagé à court terme et à long terme sur cette question du soin. Comment faire pour que l'accès à un médecin puisse être garanti pour tous et que tous les Français, quel que soit le lieu où ils habitent, puissent se faire soigner. Alors on va essayer de comprendre comment on est arrivé à une situation où c'est parfois difficile et est-ce que des premières solutions, des premières initiatives commencent à émerger et surtout est-ce qu'elles fonctionnent?
Et ce sont 4 invités, Madeleine, qui nous accompagnent dans cette seconde partie.
Oui, avec nous, Laure Artru, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin rhumatologue libéral au Mans, vous êtes praticienne attachée à l'hôpital du Mans, vice-présidente de l'Association nationale des citoyens contre les déserts médicaux et en charge de la Sarthe. Et puis donc merci à l'équipe du Mans qui vous accueille justement dans leur studio. Emmanuel Lay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre en région parisienne, président du syndicat Jeunes Médecins, qui représente 5000 médecins, toutes spécialités, tout mode d'exercice confondu. Avec nous également Guillaume Chevillard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur, mais vous en géographie, vous êtes chargé de recherche au sein de l'IRDES, l'Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé. Et vos travaux portent justement depuis plusieurs années sur les déserts médicaux et sur les solutions à y apporter. Et puis avec nous également le professeur Claude Gault, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez exercé comme médecin à l'hôpital de Garches et surtout, vous étiez conseiller de Simone Veil au ministère de la Santé au moment de la mise en place du numerus clausus. Et je commence justement avec vous, professeur Claude Gault, parce que dans cette émission, il sera question du numerus clausus. Alors, c'est un dispositif instauré dans les années 70 qui a limité le nombre de places de médecins dans les concours. On retient de ce numerus clausus une volonté de réduire les dépenses de santé en diminuant le nombre de médecins. Vous, Claude Gault, vous avez travaillé à cette époque auprès de Madame Simone Veil et je voudrais que vous nous racontiez ce qui est à l'origine de cette décision, quels étaient les enjeux et notamment en termes de formation des médecins généralistes et puis spécialistes.
Oui, c'était une période intéressante parce que avant cette année 70, il n'y avait pas d'action au niveau des médecins, c'était eux qui décidaient tout et c'est seulement en 71-72 qu'il y a eu une volonté politique d'agir parce que à ce moment-là, on s'est rendu compte que la croissance du nombre de médecins était ahurissante, puisque on avait jusque-là des nombres de l'ordre de 2000, 2200 jeunes médecins qui se formaient, et on a vu passer à 4000 en 1970, ensuite à 6000, 8000, on était dans une situation catastrophique. Il n'était plus possible de former les médecins avec une telle modification de la partie qui était la partie de formation. Et donc, à ce moment-là, Madame Veil s'est retrouvée avec une situation qui était traitée par un ensemble de personnes qui avaient fait un rapport au ministre de la Santé. C'était en 1977 que ça a été fini. Et à ce moment-là, c'était trop tard. On était avec un très grand nombre de médecins qui étaient dans la période de leur formation, qui est une période qui va de 1 à 10 ans. Donc on ne pouvait pas, dans cette période-là, rattraper l'erreur qui avait été commise. Et on a vu à ce moment-là, d'abord au niveau de l'Europe, un texte qui avait été fait et qui disait que l'on devait associer la formation technique, pratique et ce que l'on pouvait avoir de connaissances en matière de médecine. Et curieusement, on avait à l'époque en France un fonctionnement qui était absurde, puisqu'il y avait d'un côté les hôpitaux qui formaient des externes, des internes, en faible proportion. C'était vraiment une volonté d'avoir les meilleurs et de les former. Et de l'autre côté, on avait des gens en formation qui n'avaient pas cette action au niveau de la pratique. Et c'est vrai que on comprend que la directive européenne ait obligé la France, mais aussi les autres pays de la communauté, d'avoir un système de formation médicale qui était en harmonie avec ce que l'on devait avoir, voilà. C'est-à-dire à la fois de la technique et aussi une pratique. Et on a eu à ce moment-là, avec Madame Veil, à définir ce que devait être vraiment la limite en volume, ce numerus clausus, qui était ingérable, puisqu'on avait des milliers de jeunes médecins en formation qui allaient forcément aller jusqu'à la fin de cette formation. Donc on parle toujours du numerus clausus, mais en fait à l'époque, le vrai problème était la qualité de la formation des médecins, et tout le monde avait un accord sur cette notion. Mais
voilà, ce qu'il faut redire, c'est que les médecins à l'époque étaient formés surtout de manière théorique, c'est-à-dire surtout dans les facultés, et que la directive européenne de 75 demandait à ce qu'il y ait une harmonie pour que ces médecins, ces futurs médecins, soient formés aussi à l'hôpital, qu'ils puissent pratiquer à l'hôpital. Voilà. Et donc il y a ce nombre important de médecins, et on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir les former à l'hôpital, comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à cette quantité de médecins, mais aussi comment est-ce qu'après ces médecins qui seront prescripteurs ne vont pas engager peut-être trop de dépenses. Emmanuel Loeb, je vous voyais réagir. Comment est-ce que vous réagissez justement au professeur Claude Gault, qu'on remercie de nous avoir rejoint ce matin. On le remercie pour sa présentation. Claude Gault, qui a 85 ans et qui était avec Simone Veil au moment de ce numerus clausus.
Bonjour. Donc, je remercie le professeur pour son explication, qui montre bien que ce qu'on essaye de nous vendre actuellement sur cette vision, qui serait une vision malthusienne du numerus clausus, qui ne viserait qu'à équilibrer les dépenses de santé, n'est pas en fait la réalité qui a prévalu au moment où le numerus clausus a été mis en place, puisque effectivement il y avait cette question de la qualité de formation et de la capacité de l'encadrement des étudiants qui rentraient dans les études de médecine. Et cette question de l'encadrement et de la qualité de la formation se pose encore aujourd'hui, avec un numerus clausus qui a plus que doublé bientôt, et donc l'absence de moyens de formation qui sont mis qui sont mis à disposition des étudiants. Donc, en fait, on ne peut pas débrider un numerus clausus sans mettre en face des enseignants, des encadrants. Alors, il y a évidemment la création des maîtres de stage universitaires qui permettent aux praticiens de médecine générale d'accueillir des étudiants. Mais je veux dire, quand on a une telle augmentation, cette question se pose. Et après, il y a un autre élément quand même à réfléchir, qui est celle de la mixité sociale des étudiants qui rentrent en médecine. La question quand même du concours, c'est quand même une notion de concours républicain qu'on connaît dans de nombreuses filières, qui fait que les étudiants qui rentrent dans les études de médecine connaissent au préalable le prérequis qui est celui de passer un concours et donc peuvent se préparer à ce concours, même s'il existe aussi des dérives avec des classes prépa, des prépas privées. Mais il faut dire que l'Association des étudiants de médecine de France, à travers les différentes facs, ont mis en place des systèmes de tutorat qui permettent d'accompagner les étudiants et qui permettaient de les préparer à ce concours, quoi qu'on en pense. Il faut aussi savoir que l'échec au concours de première année de médecine était à peu près équivalent au taux d'échec, par exemple, au parcours licence des étudiants en droit. C'est-à-dire que quand vous regardez le pourcentage d'étudiants en droit qui réussissent le parcours licence, c'est environ 30%, ce qui est à peu près le même résultat que ceux qui réussissaient la PACES après la première et deuxième année. Donc là, on voit qu'il y a quand même une modification majeure des modalités d'entrée dans les études de médecine, notamment à travers le fameux Parcoursup et ces deux entités que sont la PACE et la LAS. Et je pense qu'il faut être très vigilant à ce qu'à partir du moment où vous mettez un peu des complexités dans les modalités d'entrée dans l'enseignement supérieur, à ce que ça ne favorise pas les étudiants issus de milieux sociaux favorisés qui auront les clés pour pouvoir entrer dans ce nouveau mode de sélection, parce qu'il y aura quand même une sélection, il ne faut pas se mentir, là où le concours était un concours républicain connu de tous, et c'était à mon avis à l'État de faire en sorte que les jeunes qui souhaitaient rentrer dans l'étude de médecine puissent rentrer dans des conditions équivalentes, et donc au niveau donc, de l'élémentaire, du lycée, quoi, du collège et du lycée, de leur donner les moyens de pouvoir tous se préparer à passer ce concours. Voilà, c'était ma réflexion sur le sujet.
Docteur Laure Artru, comment est-ce que vous réagissez justement sur cette question de la formation des médecins, des besoins de la population ?
Mais écoutez, la formation des médecins, il est bien évident que le professeur Go a parlé d'une période un petit peu lointaine où la formation des médecins était théorique, vous savez. Il n'y avait pas d'internat pour tout le monde. Il y avait un internat sélectif pour une faible partie des médecins. Donc effectivement, il fallait réguler certainement l'entrée dans les études de médecine pour une formation meilleure, et l'internat pour tous a aidé grandement et a permis de rendre cette formation égalitaire et de bonne qualité. Donc je pense qu'à chaque époque, effectivement, il y a eu besoin d'un numerus clausus parce qu'il y avait trop de médecins. Hein, ne nous cachons pas la vérité des choses. Et puis c'est allé beaucoup trop loin et on le paye aujourd'hui, et c'est vraiment regrettable.
Alors, si le professeur Claude Go est encore là, je ne sais pas s'il est encore là. Oui,
oui.
Ce serait intéressant de vous entendre sur un deuxième point assez rapidement sur lequel vous avez travaillé, qui était celui de la régionalisation et en tout cas des données que vous pouviez recueillir sur les spécialistes et sur leur présence dans les différentes régions à une époque où ces données n'existaient pas, justement. Et
oui,
vous aviez proposé une contrainte.
C'était extrêmement important, puisque on se retrouvait avec ce nombre ahurissant de 9000 jeunes médecins chaque année, et il fallait voir comment on allait répartir cet extraordinaire nombre de jeunes formés. Et à ce moment-là, on a dû regarder, parce que ça n'avait pas été fait, la totalité de chaque spécialité avec, d'un endroit à un autre, des différences qui pouvaient être de 1 à 4 ou 5. Par exemple, entre Paris et Lille, il y avait des capacités de formation qui étaient de 1 à 5. Donc, il fallait rattraper cette double erreur qui était celle du nombre, qui était devenu trop important et qui a ensuite, avec les modifications qui ont été faites quand il y a eu une alternance de la droite et de la gauche, et c'est là où il y a eu une seconde erreur par rapport à la première. La première, c'est on en forme trop, et il y a eu une période ensuite où une volonté de descendre à un niveau très faible, de l'ordre de 3000 par an, est arrivée, et là, c'était véritablement une erreur qui était dans l'autre sens. Et on voit que, en plus, ce qui avait été défini par Simone Veil, qui était d'avoir des proportions qui étaient définies à la fois pour les généralistes et pour les spécialistes, elle n'a pas été maintenue, ce qui fait que l'on n'a pas eu l'équilibre qui n'était pas seulement donc à faire un équilibre en nombre, mais également en qualité par rapport au nombre de médecins généralistes et de... On voit que cette évolution n'est pas seulement française. Quand on voit par exemple ce qui se passait dans des pays du Nord, c'était encore plus extraordinaire de voir qu'ils refusaient finalement complètement d'avoir des médecins qui étaient seuls à se déplacer et ensuite faire vraiment des groupes qui étaient en qualité de former, parce que c'était des médecins généralistes, mais souvent avec une orientation qui faisait que ces quantités étaient suffisantes pour permettre d'avoir une évolution qui était celle qui s'imposait avec l'évolution de tout ce qui se passait à ce moment-là dans la qualité de la formation.
Donc, voilà. On est sur la question de l'équilibre. Je me permets de vous couper parce que on va continuer sur cette question de l'équilibre. En effet, c'est important dans les différentes régions. Comment est-ce que se répartissent les différents médecins et spécialistes? Guillaume Chevillard, vous êtes avec nous, vous êtes géographe. Un mot, donc, on a fait cette plongée dans l'histoire qui a retenu la limite des dépenses. Le docteur Claude Gou, qu'on entendait à l'instant, a travaillé justement sur ces régions. Quelle répartition médicale aujourd'hui, quelle répartition, j'allais dire, des forces de travail médical sur le territoire? Quelles données vous avez? À quoi ressemble la carte des médecins aujourd'hui en France?
Alors, merci d'abord pour cette émission et cette invitation. On a plusieurs données, mais il y a une chose importante, et ça va être lié à tout ce qui a été dit sur le numerus clausus, c'est que ce phénomène, on va dire, de déséquilibre géographique de répartition des médecins, il n'est pas nouveau. On a des travaux de géographes qui déjà regardé la répartition des médecins généralistes. Alors, à l'échelle des départements, mais depuis plus de deux siècles, et on se rend compte que c'est un phénomène qui est ancien, qui n'est pas nouveau. Là, ce qui est nouveau actuellement, et ça a été bien expliqué, c'est qu'on a eu un resserrement du numerus clausus dans les années 90, qui en plus s'est resserré puisque la spécialité de médecine générale est moins attractive, qui fait qu'on a en fait un choc démographique pour les médecins généralistes de premier recours, avec une forte raréfaction de l'offre depuis 2010. Donc, on a en fait cette raréfaction qui vient se calquer sur un phénomène qui est plus ancien déjà, de déséquilibre géographique. Donc vous avez, pour faire simple, si on se concentre pour les médecins généralistes, des grands déséquilibres entre régions, hein, les régions du sud étant mieux dotées par exemple, mais aussi entre villes et périphéries. Mais en fait, ce constat s'atténue du fait de ce que je vous disais récemment, c'est-à-dire par cette raréfaction de l'offre de médecins généralistes. Cette raréfaction, elle concerne en fait tous les territoires désormais, y compris les villes et leurs banlieues, mais elle concerne tous les territoires, pas forcément avec la même intensité.
Ce ne sont plus seulement les campagnes, en fait.
Exactement, ce ne sont plus les campagnes, même si, encore une fois, on va y revenir peut-être, les campagnes sont moins attractives et la raréfaction est beaucoup plus forte dans les campagnes. Mais vous avez les problèmes maintenant d'accès aux soins pour le généraliste qui se posent dans les villes. Vous avez de nombreuses personnes qui ont du mal à trouver un médecin traitant, à trouver une place de soins non programmée, aussi en ville. Voilà, donc ça gagne les villes, ce phénomène et ce problème. Et ça va durer encore pour les médecins généralistes, puisqu'on a des projections du ministère. Ce phénomène va durer encore au moins jusqu'à la fin de la décennie.
Beaucoup de messages ce matin, Madeleine, reçus de la part de nos auditeurs, notamment Marie-Paul qui nous dit « Dans ma ville, il est devenu presque impossible de faire le choix de l'hôpital public car certaines spécialités ne sont traitées que dans la clinique privée où presque tous les médecins obligent à des dépassements d'horaires. Pour moi, c'est un déni de liberté inacceptable. Le droit aux soins devant, à mon avis, être libre. Il n'y a plus de possibilité, même pour être admis aux urgences, de choisir. » Un autre message, j'enchaîne, celui de Martine, j'habite dans la même ville depuis 40 ans, nous avons un centre de santé, mais voilà le problème que je rencontre pour les visites auprès d'un généraliste et certains spécialistes, je demande un rendez-vous. Réponse, le praticien ne prend plus de nouveaux patients, ce qui revient à dire que seuls ceux qui sont attitrés, ou autrement dit sur la liste de patientèle d'un médecin, peuvent se faire soigner, et c'est plutôt dommage. Laure Artru, il y a beaucoup de témoignages comme ça de la part de nos auditeurs ce matin, que ce soit sur la situation en ville ou plutôt en zone rurale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a une injustice qui est quand même épouvantable en France, c'est-à-dire que nous avons un assureur qui est la Caisse primaire d'assurance maladie, on a les mutualités aussi, mais si vous voulez, tous les Français cotisent aujourd'hui. Ils cotisent en fonction de leurs ressources, ils sont à la CMU, ils ont droit à ce droit constitutionnel et égalitaire que représente la santé. Et c'est d'une injustice notoire que de penser aujourd'hui, en France, on est quand même dans un pays développé, que nous avons des gens qui sont en défaut de soins. C'est-à-dire que, monsieur le géographe de la santé ne me contredira pas, il existe effectivement des zones en France où l'espérance de vie est réduite. Et c'est franchement insupportable, si vous voulez. Moi, j'habite la Sarthe. La Sarthe, c'est le quatrième plus mauvais élève français avec 6,08 médecins généralistes pour 10 000 habitants. C'est-à-dire que nous sommes, pire que nous, on a quelques départements dont la Guyane, l'Eure-et-Loire et la Seine-Saint-Denis. On n'est pas très fiers de ça. On est d'autant moins fiers que le nombre de médecins non remplacés est aussi galopant dans la Sarthe. Moi, ce que je vois aujourd'hui, je suis médecin rhumatologue. J'ai une demi-heure par patient. De quoi parle-t-on? Du médecin qu'on a, qu'on n'a pas, qu'on n'aura pas, et du cousin, et de la sœur, et de la grand-mère, et c'est épouvantable. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Qu'est-ce que je fais? Je me débarrasse vite de la pathologie d'épaule, je déshabille mon patient de la tête aux pieds, je dépiste, je fais des contrôles, j'envoie chez le gastro, etc. Je fais ce que je peux. C'est insupportable, c'est intenable. Moi, je suis un médecin parisien, je suis venue dans la Sarthe il y a 30 ans. Pendant 25 ans, ça a été un rêve éveillé, les correspondants merveilleux, les médecins. C'est terminé. Aujourd'hui, quand on a un patient devant soi, il faut lui sauver la vie et en être persuadé, lui donner le maximum de ce qu'on peut pour le faire. C'est injuste et c'est insupportable.
Emmanuel Loeb, la fin d'un rêve.
Alors moi, je pense que déjà, en premier temps, il faudrait essayer d'éviter les invectives ou en tout cas d'essayer de calmer un petit peu les débats et de pas aller dans la clash investigation comme on a pu voir il y a pas très longtemps, parce que je crois pas que les personnes qui rentrent dans les études de médecine le font pour autre chose que prendre en charge la population. Donc ça, je pense que, et c'est ce qui vient d'être dit par ma consoeur, c'est voilà, il y a quand même cette volonté de travailler dans l'intérêt.
Je crois pas que j'ai dit ça. J'ai dit simplement, moi, je, si vous voulez, je constate une injustice, c'est tout. Moi, je suis médecin. Je me suis mis du côté de mes patients parce que mes patients souffrent, c'est tout. Moi, je ne juge pas. Aujourd'hui, j'ai pas posé un jugement de valeur. J'ai rien dit. Non, j'ai juste dit.
Vous êtes d'accord.
Les patients.
Oui,
madame, non, mais je crois que c'est important. Il n'est pas question d'invectiver. J'ai invectivé personne. Je fais un constat.
Je disais la même chose de vous. Je disais que l'intégralité des médecins était du côté des patients, et donc le but était justement de réfléchir avec la population pour trouver ensemble des solutions communes. Je pense que également ce qu'a dit Monsieur Chevillard est l'élément clé aujourd'hui de la problématique de la démographie médicale, à savoir la répartition de la formation des médecins entre le premier et le second, entre la médecine de premier recours et la médecine dite de second recours.
Alors, il faut expliquer premier recours, second recours, voilà. Parce que c'est peut-être une expression qu'on va réentendre pendant exactement l'émission.
Étant entendu que j'allais dire la médecine de premier recours est en fait pour la majeure partie à 99,9% la spécialité de médecine générale ambulatoire, et donc qui permet aujourd'hui à travers le médecin référent et le médecin traitant à la population d'être pris en charge donc pour une demande de premier recours, donc toute demande d'ordre médical, et qu'ensuite c'est le médecin généraliste avec le patient qui l'oriente s'il y a une nécessité d'avoir un avis de spécialiste de second recours qui peut nécessiter soit une expertise particulière, soit un plateau technique, comme on peut le voir de temps en temps. Et effectivement, les courbes de démographie médicale montrent bien aujourd'hui qu'il y a un phénomène qui est assez paradoxal et qui va dans le mauvais sens, à savoir une augmentation des médecins de second recours, des médecins spécialistes en dehors de la médecine générale, générale et au contraire une diminution du nombre de médecins généralistes. Et en fait, la problématique, elle est essentiellement là. Elle est essentiellement dans le fait que la France ne forme pas en quantité suffisante des médecins généralistes. Nous, ça fait 10 ans qu'on le dit. Aujourd'hui, vous avez un paradigme qui est que, bon, vous avez un numerus clausus, on en a discuté, on pense qu'il est, mais effectivement, je pense qu'il y avait un phénomène d'accordéon qui n'était pas bon et qu'il aurait mieux fallu faire quelque chose sur le moyen long terme, etc. Mais une fois que vous avez ce numerus clausus, il y a la manière dont vous répartissez entre les différentes spécialités. Mmh. Et il y a un paradigme qui a toujours été de dire, on fait 50% vers la spécialité de médecine générale depuis 2004 et 50% vers les autres spécialités. Or, en fait, on a surtout besoin de 70% de médecins généralistes, c'est eux dont la population a besoin. Et donc, il faut vraiment réfléchir à comment, un, augmenter le nombre d'étudiants formés en médecine générale, de comment, tout en préservant la qualité de formation, parce que même pour la médecine générale, il y a cette question de la qualité de la formation. Et troisièmement, c'est comment rendre l'exercice de médecine générale attractif et comment, parce que il faut savoir aussi que les études de médecine sont des études avec une formation qui est essentiellement clinique. Or, quand vous avez un exercice ambulatoire et le plus souvent libéral, vous avez affaire à tout un tas de logiques de gestion, d'entrepreneuriat qui ne sont pas du tout appréhendées pendant le cursus médical. Donc c'est très compliqué de pouvoir, comme ça, du jour au lendemain, sortir de l'internat qui aujourd'hui est très hospitalo-centré, et les choses sont en train de changer et on peut s'en féliciter, et à quelque chose qui serait vraiment, même en équipe, quelque chose de très entrepreneurial. Donc là, il y a vraiment une urgence, et ça aurait dû être fait depuis très longtemps, à augmenter, augmenter la proportion des internes en médecine générale qui est formée, leur permettre d'ailleurs peut-être une diversité d'exercices, c'est-à-dire leur permettre de, et on le sait déjà, aujourd'hui il y a nombre de collègues médecins généralistes qui orientent leur patientèle vers la santé de l'enfant, la santé de la femme, la santé mentale, et peut-être même on peut imaginer à d'autres éléments comme l'ophtalmologie médicale et des choses comme ça, pour diversifier leur activité, diversifier les rémunérations, et donc permettre un recours aux spécialistes de second recours que pour ce qui est du second recours. Et là voilà, et on le sait d'ailleurs, et en fait, cette raréfaction de la médecine générale, et je finirai là, en fait, a créé un phénomène très pervers qui est celui du tout hôpital en France. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des déserts médicaux, il faut savoir que, par exemple, en France, on a 3500 établissements de santé, là où en Allemagne, ils en ont 2000. Donc, en fait, on ne sait plus quoi en faire. Et il y a aussi une logique politicienne, j'ai envie de dire, de la part notamment de certains élus, qui est de maintenir un hôpital public dont on sait qu'il n'a pas les capacités à prendre en charge les gens de manière correct et en préservant la sécurité sanitaire, on l'a vu, plutôt que de transformer ces hôpitaux locaux notamment en des pôles de santé libéraux et ambulatoires qui seraient beaucoup plus flexibles, beaucoup plus à même de prendre en charge la population.
Alors ça, c'est une des propositions que vous faites en effet, y compris au sein de votre syndicat. Avant peut-être de poursuivre, Melchior Gormand.
Oui, et je rappelle que vous avez la parole, tout simplement parce que vous êtes nombreux à ce matin nous envoyer des messages. N'hésitez pas également à nous appeler au 04 72 38 20 23. On parle d'accès aux soins jusqu'à 11h à l'occasion de cette émission un peu spéciale en vue de l'élection présidentielle. Madeleine, on continue avec nos quatre invités qui nous accompagnent jusqu'à 11h. Laure Artru, Emmanuel Loeb, professeur... Claude Gott nous a quittés il y a quelques instants. Mais Guillaume Chevillard est avec nous.
Oui, alors justement, Guillaume Chevillard, je voudrais vous faire réagir sur cette question des spécialistes et des médecins généralistes. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez observer au niveau du territoire avec une insuffisance? Finalement, Emmanuel Loeb le disait, on arrive à 50-50, mais en fait, le vrai besoin, il est plus fort chez les médecins généralistes.
Oui, exactement. Alors, les travaux géographiques d'analyse, on va dire, de la répartition territoriale des médecins concentrent surtout sur les médecins généralistes parce qu'on le disait, ils sont acteurs des soins de proximité, de premier recours. Donc, il y a un besoin de maillage territorial beaucoup plus dense que pour les spécialistes dont le recours va être beaucoup moins fréquent selon la spécialité. Donc, vous avez des disparités territoriales naturelles pour les spécialistes qui sont plutôt en ville et c'est logique puisque le recours est moins fréquent que pour les généralistes. Et par rapport à ce qui était proposé, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses aussi quand même, juste réagir, mais sur tout ce qui relève de la formation, pardon, d'augmenter la proportion d'internes en médecine générale, oui, pourquoi pas. Il faut quand même avoir en tête que c'est une réponse de moyen-long terme, puisqu'en fait, L'urgence, elle est maintenant, je vous le disais. Là, former les médecins, un médecin généraliste, ça prend 10 ans. Ensuite, il va faire des remplacements, etc. Il va s'installer 5 années plus tard. Donc ça, c'est une réponse de moyen-long terme dont on verra les bénéfices plus tard. Mais là, jusqu'en 2030, on sait que le nombre de médecins généralistes libéraux diminue, les besoins de la population, eux, augmentent. Et l'urgence dont on parlait, notamment dans la Sarthe tout à l'heure, mais dans d'autres territoires, elle est pour les 10 prochaines années, où là, la situation va encore se dégrader. Et donc ça renvoie à plusieurs choses qui ont été dites. Si on reste sur la Sarthe, il y a des questions évidemment de liberté d'installation. Ça veut dire qu'en fait, les médecins s'installent selon les déterminants de l'installation qui prévalent.
Et, alors, c'est lesquels ?
Alors, parmi eux, justement, on a une enquête de l'ADRES qui s'intéresse à un panel de médecins généralistes. Et en fait, c'est intéressant de voir un peu ces déterminants par rapport aux réponses qui ont été apportées par les pouvoirs publics pour lutter contre les déserts médicaux. Donc, ce qui prime, ce sont des choses qui paraissent assez naturelles, mais c'est la proximité des attaches familiales et du lieu d'études. C'est ça qui va jouer surtout quand un médecin s'installe. C'est l'attractivité, on va dire, du territoire, mais au sens un petit peu présence de services, d'emplois, etc. Ça, évidemment, c'est important. Les médecins qui s'installent, il faut que pour leurs conjoints, il y ait un emploi, des services pour leurs enfants, etc. Et enfin, troisième levier qui est intéressant, surtout chez les jeunes, c'est la possibilité d'exercer en groupe dans une structure pluriprofessionnelle ou non. Et dernier point intéressant parmi ces déterminants, c'est que le moins plébiscité par les médecins, ce sont les incitations financières. Ce n'est pas du tout ça qu'ils regardent, en tout cas peu le regardent comparé aux trois déterminants dont je viens de vous parler.
Alors ça, c'est très intéressant. L'incitation financière dont on parle énormément, la prime à l'installation, l'aide à la structure. Alors là, on peut considérer que c'est une aide presque plus matérielle qui est parfois fournie par les communes. Mais Laure Hartrug, comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de nous dire Guillaume Chevillard sur qu'est-ce qui peut être attractif pour un médecin ? Vous avez sûrement des jeunes qui viennent réaliser leur stage, peut-être, dans votre cabinet, je ne m'en rends pas forcément compte. Mais comment vous percevez ces éléments qui ont été donnés par le géographe ?
D'abord, je voudrais remercier M. Chevillard qui connaît particulièrement bien le sujet et qui a été à l'origine d'un travail qui s'appelle Remédier aux déserts médicaux, qui est particulièrement complet et intéressant. Donc je crois qu'il est très compétent pour en parler. Moi, je crois qu'il faut, si je peux réagir un petit peu à tout ça, c'est qu'il faut pas être trop inquiétant pour les auditeurs. Il faut se dire qu'il y a des médecins en France, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Simplement, ils sont mal répartis et l'association des citoyens lutte pour que justement il y ait une bonne répartition des médecins. Le levier de la liberté d'installation qui est vraiment soutenu et défendu à corps et à cri par le Conseil de l'Ordre, par tout le monde, il est justifié, quand vous reprenez l'article 162.2, dans l'intérêt des populations. Aujourd'hui, on se rend bien compte, et personne ne me contredira sur ce sujet, que la répartition des médecins n'est pas homogène. Mais ça n'est pas là-dessus, effectivement, qu'on va pouvoir, aujourd'hui, même si on restreint les conditions d'installation, la réponse immédiate, elle n'est pas là. La réponse immédiate, c'est d'augmenter le temps médecin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un nombre défini de médecins sur le territoire, et il faut qu'ils prennent tous conscience du fait que ce temps médecin, il faut le partager. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui être en capacité, peut-être quand on est un jeune médecin et qu'on remplace, peut-être de remplacer un petit peu plus et puis peut-être de limiter la durée de ce remplacement qui est une compensation à cet internat tellement épouvantable pour les jeunes médecins. On a 13 000 remplaçants en France, il en faut, mais peut-être qu'on peut limiter peut-être leur nombre et la durée. On peut surtout, au lieu de faire des aides comme ça qui sont inefficaces et voilà, dans ces maisons de santé multidisciplinaires et les CPTS, et ça c'est un progrès absolument énorme et on peut pas le renier.
Les CPTS, il faut peut-être redire ce que c'est.
Ah oui, c'est Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Voilà un remède aux 9 millions de patients sans médecin pour lesquels nous nous battons. Parce que dans une CPTS, personne n'est oublié. C'est une communauté professionnelle donc qui réunit un certain nombre d'acteurs de la santé. Et là, la base,
c'est autre chose que les maisons de santé. Excuse-moi, c'est
exactement. Pour bien comprendre. La maison de santé pluridisciplinaire, ça peut être un lieu. La CPTS, ça peut être plusieurs maisons de santé pluridisciplinaire. D'accord. Et c'est un projet de territoire. Et ce projet D'accord. de territoire, il ne laisse pas de côté le patient sans médecin, par exemple, qui ne peut pas rester isolé. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est que tout cet argent qui est proposé, finalement, pour des salaires, pour des conforts, pour etc., soit mis dans l'aide aux médecins en exercice. C'est-à-dire qu'il faut optimiser le temps médecin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le territoire, nous avons des médecins, et il faut que les populations se rassurent. Ils sont pas seuls. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Simplement, il faut faire en sorte que le temps médecin soit optimisé. Et moi, j'insisterai sur une chose importante, parce que moi, je vois mes collègues un peu plus âgés dans les territoires qui se tuent un peu à la tâche. C'est déjà aller les aider eux. Et leur proposer, pourquoi pas, des secrétaires qui peuvent pas se payer, des assistants médicaux. Et former en urgence ces infirmières de pratique avancée. Vous savez, un jeune médecin qui veut travailler 35 heures, un jeune médecin qui s'installe au Mans et qui travaille 2 jours par semaine. Bah, peut-être qu'en ce moment, faudrait peut-être en faire un tout petit peu plus. Je pense que, si vous voulez, on peut optimiser le temps médecin et mettre partout des assistants, des secrétaires, des infirmières de pratique avancée. Ça, c'est une réponse rapide, immédiate et qui peut se discuter dans les territoires.
Emmanuel Loeb, rapidement, pour réagir.
Oui. Alors, juste, je me permets de rebondir ce qu'a dit Monsieur Chevillard concernant l'urgence. Néanmoins, pour moi, ça nous, en tout cas, en tant que j'avais été représentant des internes maintenant il y a 10 ans, on faisait cette proposition d'augmenter la proportion de médecins généralistes formés. Si depuis 10 ans, on l'avait augmenté, on aurait déjà bien plus de médecins généralistes aujourd'hui. Et en plus, je veux dire, on n'est pas à 9 ans, puisque quand on propose d'ores et déjà d'augmenter cette proportion, on a chaque année, je crois aujourd'hui, le numerus clausus, il est à 8000. On aurait chaque année 5000 étudiants qui pourraient faire de la médecine générale et qui, 3 ans plus tard, pourrait exercer. Donc ça, effectivement, c'est à mon avis, c'est pas à si long terme que ça. Il faut pas non plus vendre des plans sur la comète. C'est pas la question du numerus clausus. Là, c'est vraiment la question de la sortir des étudiants. Ensuite, sur la question de tout ce qui est gagner du temps médical, faire de l'assistant médical, etc. Encore une fois, comme j'ai dit, gérer des assistants médicaux, gérer du personnel au sein d'une entreprise, eh ben ça s'apprend. C'est-à-dire que vous n'allez pas du jour au lendemain dire à des jeunes, eh ben écoutez, vous allez gérer vos ressources humaines au sein de votre CPTS, au sein de votre maison de santé pluriprofessionnelle, etc. Et en plus, ces CPTS, c'est quelque chose qui est assez technocratique, c'est-à-dire que c'est très joli, etc. Mais en fait, qui parfois, alors on voit des petites frictions, parce qu'en fait, pour pouvoir toucher certaines rémunérations en termes de forfait, il faut appartenir à une CPTS, et donc en fait, parfois, c'est compliqué. Après, il y a quand même encore un élément qui est majeur, et moi, je pense que en discussion avec le géographe, mais aussi avec des sociologues, effectivement, il y a une question sociologique qui est en train de se poser. La question aussi des habitudes de travail des nouvelles générations, et ça a été dit par exemple par ma collègue rhumatologue sur la question des 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine. Effectivement, peut-être que la quantité de temps travaillé par les jeunes médecins n'est pas la même que celle qui était celle des moins jeunes. Et donc, effectivement, on ne peut pas faire du temps pour temps en termes de temps médical. Et ensuite, il y a vraiment la question aussi des plateformes et du digital. C'est-à-dire que il y a une transformation, c'est-à-dire que de la même manière que la génération des médecins est en train de se transformer, la génération des patients est aussi en train de se transformer. Donc bien évidemment, il faut prendre en charge nos aînés, il faut continuer à pouvoir les prendre en charge tels qu'ils ont l'habitude, mais il faut aussi voir quelles seront les nouvelles habitudes des nouvelles générations qui sont sur leur smartphone H24. Et ces nouvelles générations, elles sont peut-être pas dans les mêmes logiques d'accès aux soins que les générations plus anciennes. Et donc là aussi, dans la question de ce qu'on appelle de l'adressage, c'est-à-dire comment, à partir du moment où vous avez une demande médicale, vous avez accès à une réponse en santé, qu'elle soit de la part d'un médecin, d'un professionnel de santé au sens large, et comment on fait ensuite
à
pour
vous
dédier.
À qui on s'adresse
Exactement. Et ensuite, une fois qu'on vous avait été adressé, comment on vous oriente? Et on voit aujourd'hui des grosses plateformes qui sont en train de se créer. Alors, à un moment, c'était beaucoup les assureurs complémentaires. Les assureurs complémentaires, ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est ce qu'on a appelé des réseaux de soins. C'est-à-dire qu'à partir de, comme ça se passe dans d'autres pays, c'est-à-dire à partir du moment où vous appartenez à une complémentaire santé, alors en plus, dans le Mans, ils en ont beaucoup, c'est de dire, voilà, puisque vous avez tel complémentaire, on va contractualiser avec tel médecin et vous devez aller chez ce médecin pour vous faire mieux rembourser. Et ben, ça a été empêché. Dans 2012, il y a eu une volonté de mettre en place ces réseaux de soins pour garder un accès solidaire et égalitaire sur le territoire. Actuellement, les grosses plateformes peuvent aller sur ces logiques-là d'orientation, parce qu'il faut voir aussi que le corrélat à la liberté d'installation, c'est la liberté de choix pour le patient du médecin. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de liberté d'installation, en tout cas là où il y a une médecine publique un peu comme chez les Britanniques, les patients ne vont pas voir n'importe quel médecin.
On va s'arrêter assez longuement justement sur cette régulation, la présence des médecins, ou sur quel territoire, et surtout, est-ce que ça doit être une impulsion étatique ou pas, ou est-ce que ça doit rester dans l'ordre de la liberté du médecin. Voilà, on y reviendra, je pense.
On va marquer une pause, Madeleine, dont je pense, donc Gégé, on se retrouve dans un instant, toujours avec vos témoignages au 04 72 38 20 23.
Il est devenu bien difficile aujourd'hui de comprendre les controverses incessantes autour de la laïcité, ou plutôt des conceptions de la laïcité. Notre laïcité française est-elle unique au monde? Doit-elle être ouverte ou radicale? Dans Les Racines du Présent, cette semaine, Frédéric Mounier et ses invités vont tenter d'y voir plus clair sur cette laïcité qui semble plus nous diviser que nous réunir. Pour s'y retrouver dans les histoires de laïcité, c'est ce lundi à 16h.
La Croix vous présente l'édition 2022 de son hors-série « L'année des religions ». Grâce à la profondeur, le recul et l'expertise du journal La Croix, plongez dans les grands événements qui ont fait l'actualité des religions en 2021. L'année des religions, édition 2022, en vente en librairie et chez votre marchand de journaux.
C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté, c'est mon premier vélo quand il me l'a donné. C'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle à 4h30 à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire, que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir, qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leur soupir. C'est l'amour en cadeau quand elle est dans mes bras, et ça me rend plus beau puisqu'elle croit en moi. C'est cette petite main qui se perd dans la mienne et change mon destin en une minute à peine. C'est des musiciens fous qui jouent et qui m'entourent, c'est tous ces gens debout qui me crient leur amour. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire, que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir, qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leur soupir. À la santé des gens que j'aime, c'est grâce à eux que moi je tiens, ils sont mon eau, mon oxygène, toute la lumière sur mon chemin. Et à tous ceux qui sont partis un peu trop tôt, un peu trop loin, dans mon cœur vous êtes tous ici, on se retrouvera demain.
À la santé des gens que j'aime, c'était une chanson de Patrick Bruel sur RCF.
Jusqu'à 11h, je pense donc j'agis, spécial présidentiel, Madeleine Vatel, Melchior Gormand.
Trois invités nous accompagnent jusqu'à 11h. Madeleine Laure-Artru, médecin rhumatologue libéral au Mans, également vice-présidente de l'Association nationale des citoyens contre les déserts médicaux. Emmanuel Loeb, vous êtes psychiatre en région parisienne et président du syndicat Jeunes Médecins. Et Guillaume Chevillard, docteur en géographie. On parle d'accès aux soins jusqu'à 11h des déserts médicaux. Vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour réagir. Et je vous lis un message de Monique qui nous dit: s'il me paraît évident qu'il faut augmenter augmenter le nombre de médecins. Je m'inquiète cependant, médecin, ce n'est pas tout à fait un métier ordinaire. En plus des connaissances scientifiques, il faut des qualités d'humanisme. Et ça, ce n'est pas à la portée du premier forum advenu. Quant aux déserts médicaux, je me pose cette question. Les professeurs certifiés et agrégés sont nommés par l'administration et pas forcément où ils voudraient aller. Pourquoi ne pas faire la même chose pour les médecins comme pour les enseignants? Leurs études sont financées par nos impôts. Voilà un témoignage de Monique. Qu'est-ce que vous en pensez, Laure Artru?
Écoutez, je vous remercie surtout de me donner la parole. Moi, je comprends cette auditrice. Si vous voulez, le problème de la médecine, c'est qu'en 2003-2004, il y a eu des grands changements dans la médecine. En 2003, les médecins étaient plus obligés de participer aux gardes de nuit. En 2004, c'est le médecin référent. Le médecin référent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient choisit son médecin et le médecin choisit son patient. C'est-à-dire que le médecin a le droit de refuser de prendre en compte un patient qui viendrait le voir. Non, moi, je peux pas m'occuper de vous, je n'y arriverai pas. Et en fait, le problème, si vous voulez, c'est que la médecine, c'est un métier de service. C'est un métier de service. C'est-à-dire que vous êtes informaticien, le jour même, il y en a un qui assure la maintenance le soir. On peut pas comprendre quand on est jeune interne, on travaille beaucoup à l'hôpital, on a beaucoup de gardes et tout ça, c'est épuisant, c'est fatigant. Et puis quand on quitte l'hôpital, si vous voulez, la médecine, c'est pas de la faute des jeunes médecins. Moi, à leur place, j'aurais fait pareil. On leur propose tellement des aides, beaucoup d'aides pour ci, pour ça, pour remplacer, des aides fiscales, des machins, des trucs et des bidules. Ils se doivent à leurs patients. Ils ont prononcé le serment d'Hippocrate. Dans le code de déontologie, il est dit, le médecin doit se dévouer à son patient. Alors, moi, je dis pas, si vous voulez, que les médecins vont sûrement pas continuer à travailler. C'était absurde et ça leur fait peur et ils ont bien raison. Et aujourd'hui, les habitudes sont données. 35 heures, merci Martine Aubry. Il faut effectivement se garder du temps. Mais est-ce qu'il faut se garder autant de temps? Est-ce que quand un médecin s'installe à travailler 2 jours par semaine, je suis navrée, moi, je stigmatise personne. Mais moi, j'ai élevé 4 enfants, j'ai travaillé normalement, et mes enfants, je m'en suis bien occupée. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a une prise de conscience qui doit être faite, et il faut que les médecins se mettent autour de la table pour organiser. Vous savez, aujourd'hui, c'est la grande phrase, la coercition, c'est contre-productif. Coercition, qui parle de coercition? Vous entendez un infirmier dire, c'est de la coercition, on m'oblige à prendre... Ben non, c'est inhérent au métier de médecin. Quand vous commencez la médecine... Eh ben, vous allez forcément, vous allez embrasser le plus beau métier du monde, mais il a des contraintes. Vous avez des droits et vous avez des devoirs. Donc aujourd'hui, c'est cette prise de conscience-là qu'il faut faire. C'est faire comprendre aux jeunes médecins qu'aujourd'hui, va falloir faire un peu plus. Alors après, il est question d'un travail transitoire en zone sous-dotée. Pourquoi est-ce que les médecins ne s'organiseraient
alors,
pas,
attendez,
eux,
là,
pour décider?
Pour bien préciser, en zone sous-dotée, donc ça veut dire en territoire où il y a moins de médecins, voilà, et exactement. Vous évoquez le fait de faire des premières années, ces premières années d'exercice dans ces territoires-là, c'est ça que vous voulez dire?
Ça pourrait être ça, mais ça peut être aussi autrement. Ça peut être quelqu'un qui s'installe, par exemple, comme rhumatologue à Angers, on pourrait penser qu'il a un cabinet secondaire et qu'il aille passer une journée un petit peu dans la campagne, une journée par semaine, vous voyez? C'est le partage du temps, c'est toujours ça. C'est-à-dire aujourd'hui,
la question un patient du temps,
le temps partagé, c'est-à-dire faire accepter aux anciens aussi de faire du soin non programmé en journée qui permettrait comme ça à un patient sans médecin de rester dans le soin. Vous voyez, moi je crois
on
que c'est aujourd'hui...
On va entendre Emmanuel Loeb sur le sens, je me permets de vous couper parce que je voudrais qu'on s'arrête précisément sur ce sens de l'intérêt général que vous évoquiez, ce sens du service. Emmanuel Loeb, comment vous réagissez à cette remarque de Madame Laure Artru, du docteur Laure Artru?
Moi, j'aime bien quand on fonctionne par litote et qu'on dit « va, je ne te aime point », et que effectivement on dit je ne veux stigmatiser personne. Bon, je pense que effectivement la question est, parce que dans la question du temps de travail, il y a aussi la question de la qualité des soins. C'est-à-dire qu'on sait qu'à trop travailler, on travaille mal. Donc il n'y a pas que la question aussi de l'équilibre qualité de vie personnelle et qualité de vie vie personnelle, vie professionnelle. Excusez-moi. Il y a vraiment cette question de la qualité des soins et comment on fait pour assurer le, parce que dans le serment d'Hippocrate, il y a aussi le fait d'assurer le meilleur soin. Donc il suffit pas, en fait, on veut pas faire des soins à la chaîne. Ce qu'on veut, c'est bien travailler pour que effectivement le patient soit bien bien soigner. Il ne suffit pas de faire effectivement une taylorisation des soins et de faire du soin à la chaîne pour dire, ah bah tiens, on a répondu à la demande, mais au final, on y a mal répondu, ce qui fait que la demande va de toute façon s'accumuler et qu'on n'en sortira pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est un, comment bien soigner. Après, ce qui est quand même assez, marquant dans ce qui est en train d'être dit aussi, et le format de votre, la manière dont vous avez articulé votre émission, c'est-à-dire qu'il y a une première partie sur l'hôpital et une deuxième partie sur les soins de ville. Et en fait, sur la question de la
permanence des soins. Il y a une première partie sur les soignants et les soignés, c'est bon, voilà.
Mais il y avait, oui, mais il y avait beaucoup, il y avait une partie, on en avait discuté, l'hôpital, et là, on est vraiment sur la, et en fait, il faut savoir qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui sur le dialogue entre ce qu'on appelle la ville, ou en tout cas, la médecine extra-hospitalière et la médecine hospitalière. Parce que sur la question de la permanence des soins, là, il y a vraiment le champ des possibles. C'est-à-dire, comment on fait sur un territoire, il y a énormément, comme j'ai dit, d'établissements, comment on fait pour que l'ensemble des soignants, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient libéraux, discutent ensemble pour pouvoir organiser la permanence des soins. Et là, on voit que souvent, on a un petit peu des guerres de chapelle qui font que, en fait, les uns et les autres ne sont pas en capacité de se parler, et les ARS, donc les agences régionales de santé, ne mettent pas en œuvre des politiques territoriales pour, entre guillemets, obliger les acteurs à se parler. Moi, j'y ai participé quand je représentais les internes. Il faut savoir que il y a deux commissions différentes qui s'occupent d'un côté de la permanence des soins au sein des établissements de santé et de l'autre côté de la permanence des soins qu'on dit ambulatoire. Donc déjà, ça, c'est une première question, c'est comment on fait pour réconcilier. Ensuite, quand on dit oui, faire des consultations délocalisées, bon, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus forcément lieu d'être avec tout ce qui est télémédecine, téléconsultation assistée. Je pense qu'effectivement, la question, c'est comment on fait pour répartir le premier recours et ensuite faire remonter les demandes d'avis et d'expertise. D'ailleurs, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des télé-expertises, et donc il y a la possibilité. Et ensuite, encore une fois, pour des soins de second recours, mieux vaut les accoler à un plateau technique qui offre une qualité supplémentaire plutôt que de faire de la médecine de second recours délocalisée qui, en fait, n'apportera pas de bénéfices supplémentaires à la personne qui aura recours. Et ensuite, parce que en fait, on veut tout faire de manière précipitée. Là, on a vu aussi les infirmiers de pratique avancée. Donc, on a dit, ah bah c'est super, ça va être la solution à tout, et on va mettre en place les infirmiers de pratique avancée. En fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui en santé, c'est-à-dire que tous les métiers de la santé dépendent de ce qu'on appelle une co-tutelle. Vous avez d'un côté le ministère de la Santé et de l'autre côté le ministère de l'Enseignement supérieur. Et souvent, en fait, les politiques de santé sont uniquement dirigées par le ministère de la Santé. Quand vous voulez mettre des infirmiers de pratique avancée, ces fameux, ce qu'on appelle métiers intermédiaires, qui permettraient de pouvoir réguler l'offre de soins, et de plus attendre 10 ans pour pouvoir voir des effets d'augmentation de problèmes de santé. Pourquoi ça ne se fait pas au ministère de l'Enseignement supérieur, où on discute ensemble de ce qu'on appelle les référentiels métiers, c'est-à-dire est-ce que le médecin généraliste d'aujourd'hui c'est le même médecin généraliste qu'hier, est-ce que le médecin de second recours d'aujourd'hui c'est le même qu'hier, et comment on fait pour adapter des nouveaux métiers au sein des anciens métiers et des métiers préexistants. Une fois qu'on a fait le référentiel métier, on descend, on fait ce qu'on appelle le référentiel compétences, et ensuite on fait le référentiel formation, et on discute comment former ces nouveaux métiers. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a la question de la transformation des infirmiers en anesthésie en IPA, avec quelque chose qui a été fait à Marche-Forcée, alors que les infirmiers de pratique avancée, il y avait les IAD, des infirmiers, des blocs des anesthésies. Et donc là, en fait, alors que ce sont des acteurs qui fonctionnent bien ensemble, qui ont toujours bien fonctionné ensemble, il y a un binôme qui marche bien, vous avez vu que c'est une volonté de vouloir imposer une logique électoraliste qui est de dire, ah ben voilà, il n'y a pas assez de médecins, on va mettre des IPA à marche forcée, a fait exploser ces binômes-là. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, une nécessité de rétablir du dialogue. Par exemple, le Ségur de la santé qui s'est fait en 15 jours ne peut pas se faire en 15 jours. Il faut, au bout d'un moment, prendre l'ensemble des acteurs, les usagers, les soignants, etc., leur donner un certain temps nécessaire, je pense au moins 1 à 2 mois, pour réfléchir ensemble et trouver des solutions et arrêter d'être sur des logiques à court terme. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en la santé, on n'est que sur des logiques à court terme. Et encore une fois, comme il y avait la question de la présidentielle derrière, quand j'ai entendu les propositions de Mme Pécresse sur l'accès aux soins, donc sur la 4e année de médecine générale, par exemple, encore une fois, entre une rémunération d'interne et une rémunération de médecin généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de sa 3e année, il a tout intérêt à s'installer, parce que si c'est pour faire le même boulot et être payé 4 fois moins, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Donc vous voyez, on voit derrière qu'il y a des logiques technocratiques qui sont complètement hors sol. Donc il va
falloir... Alors on va faire réagir Guillaume Chevillard là-dessus, parce que ce sont effectivement parfois différentes logiques entre le médecin qui est jeune, qui sort de ses études, qui est un peu moins jeune que les autres étudiants, mais qui peut avoir une envie de fonder sa famille et puis, on va dire, peut-être les exigences de l'État. Comment est-ce que tout cela peut s'organiser? Quelle peut être la part de liberté dans le médecin, dans son installation? Et puis, quelle est en même temps peut-être les directives nationales qui peuvent être données pour qu'on ait sur le territoire des médecins un peu partout, j'allais dire?
Sur la liberté d'installation, on en a parlé, on le sait, ça crée de fait des inégalités territoriales. Juste pour revenir peut-être, avant de parler de la coercition, puisqu'on a parlé en tout cas de limiter les installations, rapidement sur ce qui a été fait et ce qu'on en sait. On est allé un peu vite, mais pourquoi on arrive à de telles mesures qui sont envisagées? On l'a dit, depuis le milieu des années 2000, ce sont des incitations financières qui ont prévalu, dont on sait qu'elles sont peu efficaces pour attirer les médecins dans les déserts médicaux. Ensuite, il y a une réponse plutôt consensuelle, donc au milieu, fin des années 2000, qui a été d'améliorer les conditions d'exercice via les maisons de santé, en faisant le pari que ce serait attractif pour les médecins, y compris dans les zones sous-dotées. Donc ce qu'on sait de ces structures, nous on a fait des études avec mon collègue Julien Mousquet sur ces structures pour voir est-ce qu'elles permettent en effet d'améliorer l'offre de soins. Donc on a regardé comment évolue l'offre de soins dans différents types de territoires depuis 2004, selon la présence ou non de maisons de santé. Pour faire très simple, on montre que l'offre de soins évolue mieux dans les territoires avec maisons de santé. Alors, je vous rappelle qu'on est dans un contexte de raréfaction de l'offre de médecins généralistes, donc ça veut aussi dire qu'elle se dégrade moins qu'ailleurs quand il y a une maison de santé. Ça ne veut pas dire que c'est une recette miracle. Donc ça, c'est pour vous dire quand même que les maisons de santé, on observe qu'il se passe quelque chose, on observe surtout que c'est très attractif pour les jeunes généralistes et que c'est ça qui fait que ça permet en tout cas que l'offre se dégrade moins qu'ailleurs. Mais il y a des territoires comme les espaces périurbains où les maisons de santé permettent d'améliorer l'offre de soins comparativement à des espaces périurbains qui n'en ont pas. Donc là, on a un levier qui est puissant, qui est intéressant, mais qui, comme je vous le disais, ne suffit pas, notamment dans les marges rurales où là, la raréfaction est plus forte. Donc ça pose la question de est-ce qu'il faut aller plus loin? Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit parce que je converge notamment sur tout ce qui est mesures qui ont été déployées pour augmenter le temps médecin. À court terme, sachant le choc démographique, je pense qu'il faut passer par là. Sur la question donc de limiter les installations dans les zones surdotées et donc en ayant l'idée que ça profite aux zones qui sont sous-dotées, déficitaires, ça a été fait pour les sages-femmes, les kinés, les infirmiers. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni l'utilisent également. Il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête avant d'essayer de raisonner pour la France. D'abord, par exemple, pour les infirmières libérales, on est dans une croissance très forte des effectifs depuis le milieu des années 2000 et avec une tendance naturelle à une résorption des inégalités territoriales. Donc là, on accompagne les installations.
Ça veut dire que du côté des infirmières libérales, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Oui. Il n'y en a pas de souci à se faire de ce côté-là.
Donc, le principe, c'est un départ. Vous avez des zones surdotées. S'il y a un départ à la retraite, il y a une installation qui est prévue. C'est ce que propose le député Guillaume Garot, député de la Sarthe, justement.
Ce point de vue, si je me permets, en fait, ça n'a rien à voir. Parce que, en fait, quand les infirmiers ou infirmières s'installent, ensuite, elles ont un exercice qui est délocalisé. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont mettre une adresse quelque part qui peut correspondre à une zone de pénurie de soins infirmiers, et ensuite elles prennent leur voiture, elles vont faire du soin à domicile. Donc en fait, on n'est pas du tout, alors que quand vous installez un médecin, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et quand vous dites, moi, nous aussi à l'ISNI, au syndicat des internes, quand j'y étais en 2013, on avait fait un gros benchmark international sur les pays de l'OCDE pour savoir est-ce que dans les pays de l'OCDE, il y avait des mesures qu'on appelle soit coercitives, soit désincitatives, parce qu'on était sur une démarche agnostique en disant, bon, voyons si ça marche. La réalité, c'est que ça ne marche pas. La seule mesure qui a fonctionné, c'était une mesure au Japon où ils ont fait des universités régionales. Au Japon, ils ont fait, en gros, parce qu'on sait que ce que vous avez dit dans les déterminants d'installation, il y a l'endroit où on fait ses études. Et donc, effectivement, au Japon, ils ont délocalisé des universités et c'est le seul endroit où il y a eu des effets. Dans les autres pays, que ce soit l'Allemagne, où d'ailleurs, c'est pas du tout le même mode de financement des soins puisque ce sont des assurances privées. En plus,
on arrive à la fin de l'émission.
On disait la même chose. Je suis pas allé au bout. Je suis d'accord avec vous.
Guillaume Chevillard.
Ce que je voulais dire quand je prenais ces exemples-là, c'est que ce sont des contextes de profession qui sont différents, donc vous l'avez très bien illustré, des pays différents et qu'on ne sait pas ce que ça donnerait en France. Pour autant, on sait quand même que ça produit des effets en Allemagne, ça limite, ça cape les plafonnements, ça plafonne dans les zones surdotées, mais ça profite pas forcément aux zones sous-dotées, donc ça c'est quand même intéressant. Et surtout, et moi c'est mon principal point, en tout cas qui me laisse perplexe dans cette proposition, c'est que dans le contexte français de raréfaction de l'offre médicale, vous avez davantage de départs à la retraite que d'installation, y compris dans les zones mieux dotées. Donc en fait, la mise en pratique de ce principe, je ne vois pas comment on pourrait faire. Donc c'est pour ça que nous, en tout cas, on penche pour plusieurs options, mais c'est augmenter à court terme le temps médecin disponible via différentes réponses et aussi recruter différemment les médecins. Donc là, c'est plus du long terme, en variant les profils sociaux et géographiques aussi, puisqu'on sait qu'un médecin ou un étudiant né en zone rurale a plus de chances de s'y installer, par exemple.
Merci beaucoup, merci de toutes ces données. On voit le sujet est complexe, mais vous avez réussi à nous donner des exemples assez concrets. Merci Laure Artru, médecin rhumatologue libérale au Mans, praticienne attachée à l'hôpital du Mans, vice-présidente de l'Association nationale des citoyens contre les déserts médicaux. Merci Emmanuel Leb, psychiatre en région parisienne, président du syndicat Jeunes Médecins. Merci Guillaume Chevillard, docteur en géographie, chargé de recherche au sein de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé.
Merci.
Et puis
Madeleine.
Merci au professeur Claude Gau qui nous avait rejoint en début d'émission. Merci beaucoup.
Merci Madeleine Vatel, c'était la première émission en vue de l'élection présidentielle. Plus d'informations sur rcf.fr. Bonne journée à tous et à demain 9h-11h.